Émission d'En jase de ton jeudi 20 août. Il est présentement 13h02. On va recevoir France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor. Mais avant, Mathias, il y avait un accident sur le pont Pierre-Laporte. Est-ce que c'est réglé?
Oui, c'est réglé. Il y a encore un léger ralentissement là, pour accéder au pont, surtout présent sur Duplessis en direction sud pour le moment. J'en profite pour vous mentionner capteur direction est entre Pierre-Bertin et boulevard Neuvial, c'est au rouge. Dans l'ancienne direction sud, quand même pas mal d'attente pour accéder à Capitale. Sur la rive sud, maintenant 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, comme à l'habitude, c'est difficile. Même chose pour Guillaume Couture, direction ouest, auteur chemin du fleuve.
Je remercie Chantal, une nouvelle auditrice qui dit « Super, j'aime votre émission, je t'ai informé de ma ville et non de Montréal, vous faites la job, bienvenue aux nouveaux auditeurs, nouvelle auditrice. » Puis n'hésitez pas à nous donner vos commentaires au 418-971-1021. La CAQ a coupé 5000 postes à temps complet depuis la dernière année de son mandat. Celle qui s'était vue donner le mandat de le faire en se faisant appeler maladroitement par François Legault, Cruella, là, hein, on s'en rappelle, a réussi à faire le travail. Elle est au bout du fil. France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor. Madame Duranceau, je ne vous appellerai pas Cruella. Ne vous inquiétez pas.
Écoutez, bonjour, M. Forcé. Mais Cruella qui a fait les choses très délicatement, je vous dis.
Ben, c'est ça, exactement. Hein? Moi, j'ai une question. Avant qu'on parle des employés à temps complet, j'ai vraiment une question importante pour vous parce que là, je me demande comment je dois nommer les choses. Quand je parle des 8 dernières années, je parle de la CAQ, la Coalition Avenir Québec. Mais là, est-ce que je peux encore utiliser le mot Coalition Avenir Québec ou je dois utiliser le terme équipe Christine Fréchette?
Je pense qu'on est encore une coalition. C'est la coalition, mais c'est l'équipe Christine Fréchette. Il y a un nouveau ton, nouvelle approche, nouvelle façon de faire. Alors, je pense que c'est important de le faire ressortir, d'où le nom équipe Christine Fréchette.
Vous avez coupé 5000 postes à temps complet. Comment avez-vous réussi ceci?
Ben, on a réussi ça de manière très calculée. Et chirurgical, je l'ai dit quand j'ai annoncé ça à l'automne dernier, c'est on va faire ça là, de manière organisée pour que ce soit durable, puis qu'on n'arrive pas avec une tronçonneuse, puis qu'on ébranle tout le monde, puis surtout qu'on ébranle les services publics. On a dit on va avoir une approche structurée. Alors, comment on a fait ça? Gel d'embauche, donc et gel de recrutement. Alors, on ne remplaçait pas des postes qui se libéraient. Ensuite, on a démarré tout ça dans le contexte d'un grand chantier de l'efficacité de l'État. Mmh. Alors, on revoit nos façons de faire. On laisse tomber des éléments de bureaucratie pour que les gens travaillent sur ce qui a un impact pour les citoyens au lieu de faire de la reddition de comptes entre ministères puis à l'interne. Alors, tout ça, bien, ça libère des heures puis ça fait en sorte que soit qu'on n'en a plus besoin ou bien on travaille sur autre chose. Alors, ça fait partie de l'approche. Puis l'autre élément, c'est l'aménagement du temps de travail. Il y a des gens qui ont dit, ben moi, au lieu de travailler 37h30, je vais travailler 32 heures semaine sur X nombre de jours, sur 4 jours au lieu de 5, disons. Et ça aussi, ça a contribué à réduire le nombre d'heures. Alors, on visait de réduire de 5000 ETC d'ici au 31 mars 2027. Et finalement, on a atteint la cible en avril 26. Donc, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Il y a un objectif d'un autre 3000 dans les prochaines années, tout ça dans un contexte de retour à l'équilibre budgétaire, puis dans un contexte aussi d'intégration de l'intelligence artificielle, puis de faire les choses différemment. Alors, vous voyez, on fait ça de manière précise et chirurgicale.
De manière structurée. Justement, vous parlez du contexte du retour à l'équilibre budgétaire. La vérificatrice générale est sortie cette semaine disant que c'est un 5 milliards qu'on devrait trouver. Éric Girard, le ministre des Finances, a dit « Bon, je suis pas trop d'accord, voici comment j'ai calculé mes choses », mais que ça soit 2, 3, 4 ou 5 milliards. Vous êtes président du Conseil du Trésor. Où la CAQ va aller piger cet argent-là?
Mais alors, c'était pas une grande nouvelle, là, ça, cette semaine. C'était déjà étayé dans notre dernier budget. Donc, quand il y a un plan de retour à l'équilibre budgétaire, on indique à chaque année quelles seront les sommes qui devront être retranchées des dépenses pour arriver à l'équilibre. Alors, comment on va faire ça? Bien, on revoit l'ensemble des programmes. Il y a peut-être des programmes. Des programmes, c'est la manière dont on distribue l'argent, là, des subventions. Il y a peut-être des choses qui n'atteignent pas les objectifs recherchés. Alors, on va revoir ça, puis recadrer ou redistribuer autrement et différemment. On a notre chantier d'efficacité de l'État. On vise à réduire de 16. Actuellement, là, les services administratifs dans l'État, ça représente 16,7 % des salaires.
Okay.
Alors, on veut faire passer ça de 16 à 12 % puis à 10 % Donc, moins de personnel administratif, moins d'individus qui gèrent des équipes. Donc, pour focusser davantage...
J'aime ça, ça me parle, parce que j'ai toujours l'impression qu'on coupe les gens qui sont sur le terrain, qui offrent le service.
Non, pas du tout. Toute la démarche là, se veut sans qu'on touche au service aux citoyens. Puis on va les améliorer, les services aux citoyens, en changeant la culture à l'interne, en adoptant des outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'être plus rapides, plus efficaces, puis de permettre aux fonctionnaires qui répondent aux citoyens d'être plus dans l'analyse, dans l'humain que dans la paperasse puis la bureaucratie. Alors, c'est bien organisé. Puis je vous dirais que surtout, il y a une adhésion de la fonction publique à ça. Parce que des humains, là, on parle des fonctionnaires, mais c'est des humains, là, en arrière de ça, qui on va changer leur façon de travailler, leur façon de faire. Alors, il faut qu'ils soient partie prenante au changement, puis qu'ils y adhèrent. Puis je pense qu'on a réussi à établir ça, ce climat de confiance où les gens voient qu'on n'est pas rentré avec la tronçonneuse, on rentre d'une manière qui est compréhensible, puis que les gens voient où on s'en va, puis ça va amener des bénéfices. Autre exemple, c'est... Le nombre de choses qu'on garde en inventaire dans le gouvernement. Des vieilles chaises, des vieux paravents, des classeurs. Ben, tout ça, tout le monde entrepose ça un peu partout, selon ses critères. On est en train de tout consolider ça pour garder ce qui restera utile, revendre ou disposer de l'extérieur.
Ah, ben là, ça, là, il y a plein d'organismes communautaires qui en cherchent des classeurs, des paravents puis des bureaux. Envoyez-moi ça, là, ça va être parfait.
Voilà. Puis pour tout vous dire, en fait, il faut même payer dans certains cas pour en disposer parce que des choses sont tellement désuètes que personne n'en veut, mais ça fait partie de l'exercice. Alors vraiment, on lève toutes les pierres, puis comme je vous dis, on fait ça de manière structurée, intelligente et rassurante pour autant pour les fonctionnaires que la population, tant qu'à moi.
Oui, bien on parlait justement, je vous écoute parler, puis on parlait du rapport de la vérificatrice générale. L'annonce de la fin du jet d'embauche survient quand même un peu après la comparaison de la VG qu'elle a fait avec les années Couillard sur vos coupures. On a, tu sais, veux pas, il y a un lien qui s'est créé avec l'austérité. Est-ce qu'il y a un objectif dans votre annonce d'aujourd'hui de redorer un peu l'image de votre réduction de l'État?
Ben, écoutez, je vous dirais que on est évidemment à la veille d'une campagne électorale, mais c'est surtout que l'objectif est atteint. Alors, je pense que c'est une annonce qui mérite d'être soulignée. Puis encore, comme je le dis, objectif atteint d'une façon structurée, intelligente et pérenne. Donc, c'est ce qu'on voulait souligner.
Mais est-ce qu'il y a quand même un objectif d'envoyer un message aux Québécois de dire « Ah non, on veut pas faire d'austérité, nous, on veut quand même être prudents? »
Moi, premièrement, de l'austérité, c'est quand il n'y a pas de croissance des dépenses, puis on a quand même un taux de croissance des dépenses qui est prévu là, de l'ordre de 4 % ou 2 points quelques, là, selon les ministères. Alors, il y a encore de la croissance des dépenses. Donc, ça, c'est pas de l'austérité. Moi, ce que je dis, c'est que on n'est pas arrivé avec des coupes paramétriques où on a dit à tout le monde, vous coupez. Et là, pour couper, ben au lieu de se regarder soi-même puis de couper dans le gras à l'intérieur des ministères, le réflexe facile, c'était de couper le service aux citoyens. C'est ce qui est arrivé dans les années Couillard puis qu'on a rattrapé quand on est arrivé en poste. Alors là, notre approche, nous, c'est de se regarder nous-mêmes, là, que l'État se regarde le nombril, fasse son ménage, puis de façon à réduire les dépenses de l'État puis à augmenter sa productivité.
Quelques questions à rafale pour vous pour terminer l'entrevue. La grève des ingénieurs, il se passe quoi? Est-ce qu'on est à la table des négociations?
Bien, on a une entente avec les ingénieurs. Il y a une entente qui a été proposée là, par le médiateur puis soumise aux ingénieurs. Et leur grève, ou en tout cas les moyens de pression, ont été levés en date de lundi.
Okay.
Lundi dernier, là, si je vais aller dans mes dates.
Hey, pas de problème.
Donc, ça, c'est réglé. Évidemment, on attend que les ingénieurs se prononcent, là, mais il y a une entente entre les parties.
Parfait. Pour ce qui est des paramédics, là, on reçoit un texto là-dessus avec on doit régler la convention collective. Ça, j'avais vu qu'il y avait une entente également. Est-ce qu'elle a été ratifiée?
Bien, il y a une entente qui avait été convenue entre les parties négociantes, donc entre nous et le syndicat qui représente notamment le syndicat CSN, là, qui représente un des groupes d'ambulanciers. Et cette entente-là a été rejetée. Donc, nous sommes en discussion avec les parties négociantes en ce moment pour voir quelle sera la suite des choses.
OK, parfait. Donc, on reprend, autrement dit, là, malheureusement, le processus.
C'est ça. Les ingénieurs, c'est lundi le 17 août, donc c'était cette semaine-là.
Où, qui sont revenus.
Les moyens de pression ont été levés. Donc, les travaux se poursuivent et peuvent avancer.
On parlait avec la commission de protection des malades la semaine dernière et ils nous disaient que seulement 6 % des heures en rendez-vous pour la clientèle vulnérable est fait dans les heures qu'on appelle désagréables, c'est-à-dire après 15 heures ou la fin de semaine. Est-ce que vous avez l'impression que vous en êtes fait passer une petite vite par la Fédération des médecins et des praticiens du Québec?
Non, ben on leur parle, là, contrairement à ce qui avait cours là, il y a un an, disons, on leur parle vraiment sur une base continue, puis on cherche des solutions ensemble. Alors, l'entente convenue avec eux là, visait à inscrire 180 000 personnes vulnérables. Alors, quand les médecins ont dit « je les inscris », bien évidemment, on s'attend à ce qu'ils les voient, puis on travaille avec la FMOQ pour voir s'il y a des lacunes à certains endroits, de voir comment on peut les aider. Mais c'est sûr qu'il reste du travail à faire du côté de la santé. Mais il y a une entente qui est très, très intéressante pour les Québécois. Il y a plus de 500 000 patients qui ont été pris en charge, dont 180 000 vulnérables. Il demeure encore que le service là, 811, option 3, quand il y a une problématique pour du sans-rendez-vous, ça, c'est encore là. Alors, il y a différentes façons là, d'être vu dans le milieu médical, mais il faut continuer de travailler sur une première ligne qui est plus rapide et qui permet de voir plus de monde pour désengorger après ça tout ce qui est hospitalier. Mais je vous dirais que s'il y a des problématiques, faut nous les soulever, faut que ça remonte soit aux équipes de comté, à la FMOQ, puis on le travaille ensemble pour y pallier.
Est-ce que vos coupures que vous parliez justement dans la paperasserie, plus dans l'administratif, s'appliquent aussi au système de la santé? Parce que je voyais 41 minutes de délai d'attente moyen plus élevé depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. Ça, c'est signe que la première ligne ne fonctionne pas bien.
Bien, c'est signe surtout qu'on a pris un des éléments qui celui-là était négatif pour pouvoir commenter là-dessus. Là. Il y a quand même moins...
Oui, mais quand même, c'est important pour les gens.
Oui, oui, mais il y a plusieurs indicateurs. Moi, je pense que Santé Québec, c'est un outil pour justement être plus efficace. Vous savez, le ministère de la Santé là, n'avait pas de budget qu'il suivait de manière rigoureuse. Avant l'arrivée de Santé Québec. Là, Santé Québec, depuis le mois d'août 2025, est vraiment en ligne avec son budget à chaque mois. Et pour y arriver, ben, ils doivent être plus efficaces. Donc, il y a des efficacités à aller chercher dans le système. Donc, oui, de leur côté, il y a des choix à faire. Il y a de la bureaucratie à enlever pour se concentrer sur les soins aux patients. Alors, on a vraiment une administration des gens là, qui sont compétents, on a consolidé des compétences à un seul endroit, puis on peut partager justement ces compétences-là entre les différents établissements. Exemple, des couvertures pendant l'été, parce que tout le monde est en vacances dans un hôpital sur la Côte-Nord, bien, les équipes se mettent ensemble, puis on envoie l'équipe, une équipe volante pour aider. Cette meilleure façon de travailler en collaboration à tous les établissements a des impacts réels sur le terrain. Alors oui, on peut sortir un indicateur qui est moins positif, mais on en a un paquet d'autres qui sont tout à fait dans la bonne direction. Je pense que Santé Québec en fait bien la promotion par ailleurs.
En terminant, Benoît Charrette a quitté hier. Est-ce que vous allez vous présenter aux prochaines élections? Me le confirmez-vous ici en Londres?
Bien, je vous le confirme. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai confirmé ça.
Oui, mais il y en a plein de vos collègues qui l'avaient confirmé et qui sont partis. Ouais, On ne sait plus.
Le 7 juillet dernier, dans mon comté, j'ai dit que je voulais poursuivre. Moi, je pense que c'est important d'avoir un gouvernement qui est solide sur le plan économique dans le contexte actuel, puis un gouvernement qui ne nous place pas dans une position d'incertitude économique. Donc, actuellement, l'option référendaire, c'est nous précipiter dans une abysse et je pense que ce serait très néfaste pour les Québécois à court, moyen et long terme. Alors moi, je vais me battre pour que notre gouvernement soit de retour au mois d'octobre pour qu'on puisse continuer à améliorer l'efficacité de l'État comme je le fais depuis presque un an maintenant.
France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. C'est très apprécié.
Bien, merci pour votre intérêt. Au plaisir.
Merci. Passez une belle fin de journée. France-Hélène Duranceau, qui est aussi ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité. Moses, que c'est plate, c'est 8 ans trop tard.
De couper ça?
Oui, c'est 8 ans trop tard, la CAQ. Parce que, tu sais, honnêtement, de la façon qu'elle nous l'explique et de la façon qu'ils l'ont fait, c'est vrai que ça a l'adhésion syndicale. C'est vrai que ça se fait bien. Il n'y a pas de grand mouvement contestataire. Puis c'est vrai qu'il y a des résultats.
Ah ben,
mais c'est 8 ans trop tard.
Tu sais, faut être honnête. Ça a été efficace en maudit. On a déjà coupé 5000 postes
ben
en
oui.
plein. Il y a eu la...
François Legault, l'objectif.
Ben c'est ça. Ben François Legault a donné la directive à l'automne dernier.
Exactement.
Ça fait même pas un an qu'on a cette directive-là. Déjà 5000 postes de coupé. Donc, ça, c'est la preuve parfaite qu'il y a moyen de le faire. Je pose la question aux auditeurs. On a coupé 5000 postes en moins d'un an. Avez-vous l'impression d'avoir moins de services? On n'en avait pas vu un an, puis on n'en a pas plus maintenant.
Exactement. Tu sais, là, ça, c'est un problème. Là, c'est d'améliorer le service. Tu as le bien beau balayer du revers de la main, le délai d'attente dans les urgences. C'est une vraie donnée, c'est statistique.
Ah oui, ça, c'est certain.
Puis je vais le dire comme ça, là, c'est très dérangeant pour la population parce que c'est pas vrai qu'à l'heure actuelle, l'accès à la première ligne s'est amélioré. On en parlait la semaine dernière, puis je lui ai posé une question à cet effet-là. Des heures jugées désagréables pour le médecin, mais agréables là, pour la population, où on a seulement 6 % de nos rendez-vous.
Ah,
là,
ça, donc, c'est inacceptable.
Là. Exactement.
On est à la même place pour ça.
Exactement. Donc, j'ai bien aimé discuter avec Mme Duranceau. On voit qu'elle connaît bien son dossier, mais comme j'ai dit, malheureusement, moi, tu sais, ça vient trop tard, puis à l'heure actuelle, ben, les actions trop tardives de la CAQ ne m'enchantent pas pour voter pour eux. Vous avez pensé quoi de cette entrevue? 418-971-1021.
C'est que sur 8 ans, initialement, la CAQ avait promis de réduire la taille de l'État. Là, c'est bien beau, on vient couper 5000 postes
sur 8 ans,
temps
ça
plein.
Augmenté,
on a ajouté 14 000 fonctionnaires. Fait que faites le calcul, ça reste 9 000 fonctionnaires supplémentaires qu'on a depuis la CAQ.
Exactement. Les délais d'attente dans les urgences ont augmenté de 41 minutes depuis 2018. Et pourtant, la CAQ nous avait promis de les réduire. On en parle avec Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Après la pause, et on va faire un petit retour aussi sur les négociations Canada-États-Unis.